nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces.
Et oui, le combat continue. D'ailleurs, il ne s'est jamais arrêté. Installe-toi bien, car aujourd'hui, j'ai un scoop pour toi. Les indépendances en Afrique sont la conséquence d'une classe d'hommes et de femmes politiques, artistes, intellectuels noirs, alliés à tout un peuple qui ont mené un travail de terrain d'une efficacité monumentale. Comme moi, tu l'as remarqué, l'Europe est incapable d'apporter une réponse efficace à son colonialisme. Et ce n'est pas l'œuvre d'un Charles de Gaulle comme beaucoup veulent le laisser croire, ou de sa France libérée du nazisme grâce au sang des Africains. D'ailleurs, de Gaulle dira à propos des indépendances « J'ai desserré les liens pour éviter qu'ils ne se rompent. » C'est dire s'il voulait vraiment donner l'indépendance aux pays africains. Un proverbe africain nous dit que « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les livres d'histoire continueront à raconter la gloire du chasseur. » Eh bien aujourd'hui, je raconte la version du lion. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du guide du petit panafricain. Je me présente sous le nom d'Arleno, Arleno Antonio, juriste, coach, blogueur et acteur du monde associatif. Mais aussi, j'œuvre à la consolidation d'une conscience panafricaine. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Cette quatrième partie est intitulée « Comprendre le panafricanisme, la grande messe panafricaine de Paris ». C'est le quatrième et dernier opus de la série « Comprendre le panafricanisme », notamment la phase activiste de ce mouvement et aussi décisive dans l'obtention des indépendances en Afrique. Pendant une dizaine de minutes, je vais décrypter avec toi l'un des événements décisifs majeurs qui a permis l'avènement des indépendances. Afin de te bien situer, je suis parti de la révolution des esclaves de Saint-Domingue en passant par cinq figures majeures du panafricanisme via les congrès panafricains. Aujourd'hui, j'engage le front du combat intellectuel et artistique, et aussi littéraire, via l'éminent congrès des artistes et intellectuels noirs de France organisé à Paris en 1956 à la Sorbonne, puis 19 au 22 septembre à l'amphithéâtre Descartes. Oui, cet amphithéâtre est symbolique, en ce sens même que c'est là où Madame Roosevelt a tenu un discours pour défendre la Déclaration universelle des droits de l'homme à une époque où l'homme et la femme noire étaient toujours considérés comme des citoyens à la périphérie de l'humanité. C'est dire une classe d'hommes et de femmes, certes destinée à rester dans l'ombre. Mais en quoi est-ce que ce congrès est à l'avant-garde des luttes de décolonisation? Tout d'abord, il va sans dire qu'il est difficile de décoloniser un espace géographique sans avoir au préalable décolonisé les esprits. Donc, si nous sommes d'accord que l'homme noir peut écrire, alors il sait penser. Et s'il sait penser, naturellement, il existe. Descartes aurait été vivant qu'il m'aurait certainement applaudi. Mais plus sérieusement, ce n'est pas la floraison de productions intellectuelles, artistiques et littéraires du monde noir qui viendra contredire ce constat. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Quelle belle ode au déterminisme des peuples. Alors si je pense et que je suis, la conséquence logique est maintenant, qu'est-ce que je fais pour embrasser mon destin avec autorité et engagement? Et la conférence de 1956 est l'une des réponses empiriques à cette situation. Première phase de décolonisation. Pour créer durablement, il faut le savoir, il faut s'unir. Et pour s'unir, il faut se parler, se connaître, se comprendre. Bref, il faut s'aimer. Il faut aimer qui nous sommes. Et qui sommes-nous, sinon des hommes et des femmes beaux, dignes, fiers et talentueux, affables et généreux, inspirants et inspirés, vivants et vibrants, brillants au firmament de nos divines singularités. Ça, c'est qui nous sommes. Hélas, on mène contre nous le combat le plus violent. Pour vous donner une idée de ce qui prévalait à cette époque, en 1954 notamment, sort le premier livre d'un jeune doctorant sénégalais de la Sorbonne intitulé « Nation nègre et culture ». Ce livre vient contredire la théorie suivant laquelle, ou les théories suivant lesquelles, l'Afrique n'a pas de passé, et que les civilisations brillantes qui ont essaimé sont l'œuvre de blancs à peau noire ou de blancs à peau brune. À cette époque, seul le génial poète martiniquais Aimé Césaire se saisira de ses thèses afin de faire adhérer le maximum de spécialistes du Paris progressiste, disposés avec lui à défendre ce nouveau livre. Il reviendra très vite de ses illusions, n'ayant trouvé personne pour soutenir sa mission. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Césaire a tapé poteau. Mais plus sérieusement, c'est vous dire la répression qui pesait à l'époque, car si on voulait avoir une carrière, il fallait se désolidariser des thèses de Nation Nègre, quitte à déclarer qu'elles étaient farfelues. Je referme la parenthèse. Tout part de Bandung, en Indonésie, le 24 avril 1955, lors du sommet entre les représentants politiques d'Afrique et d'Asie luttant contre la colonisation. L'initiative sera prise par un Africain du Sénégal nommé Alioune Diop. Alioune ayant des Diop, son épouse, Senghor Léopold, Césaire Aimé et Damas Léon Gontran, et bien d'autres, prennent l'initiative de convoquer un grand sommet. Homme de culture et directeur de la maison d'édition Présence africaine, Alioune Diop saisit les enjeux que constitue la nécessité de réunir la crème des intellectuels et artistes du monde noir pour parler, discuter, mieux pour causer ensemble sur l'issue d'un destin commun à une époque où l'étau se desserrait de plus en plus. Et si nous étions remplis de la densité des blancs, ce que je n'ai aucune honte à admettre au regard de notre passé récent, il va sans dire qu'il fallait en sortir et nous retrouver nous-mêmes à travers notre propre paradigme, notre propre cadre de référence et nous remplir d'une densité nègre propre. Ô indépendance, ce mot résonnait au cœur de tous comme une nécessité vitale. Mais pour la réaliser, il fallait des hommes indépendants, indépendants de toute influence extérieure. J'ai rarement vu un homme aussi sereinement maître de sa foi, dira le génial poète René Depestre. Au-delà de son indépendance, Alioune Diop, homme de culture, était un stratège. Tel un baobab au milieu du village, Alioune savait utiliser les opportunités qu'offre le destin à son avantage. Il enverra donc une invitation à tous les intellectuels noirs du monde, toutes tendances confondues, c'est important, toute obédience et toute religion, déléguant ainsi à Césaire le soin de rallier le soutien des intellectuels blancs. N'oubliez jamais cette maxime que je vous invite à vous approprier. Quand on va à la guerre, on y va pour gagner. Dès lors, tous les espaces utiles à la cause sont à occuper. Conscient donc du fait qu'il marchait sur des œufs avec les autorités françaises, qui voyaient d'un très mauvais œil les positions prises par Césaire notamment, avec son discours sur le colonialisme, ou même un Cheikh Anta Diop avec ses thèses d'une Égypte nègre, conscient donc qu'à tout moment l'exécutif français, en pleine guerre d'Algérie, et dans une situation de remise en question de sa position géopolitique, pouvait faire avorter ce grand projet. Alioune Diop, un homme de stratège, s'agrège donc le soutien non seulement d'artistes incontournables du monde noir, tels que le jazzman Louis Armstrong ou la chanteuse Joséphine Baker, mais aussi de nombreux intellectuels français de l'époque, tels que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Mounier, André Gide, Lévi-Strauss, Michel Léris, Théodore Monod, mais aussi d'artistes très en vue tels que Matisse et un certain Picasso qui signera l'affiche du congrès en dessinant l'image d'une être universelle, à savoir fier, digne, droit, beau avec le regard saillant. Cette stratégie s'avère payante car le congrès se tiendra bel et bien à la date du 22 septembre 1956 avec, en introduction au discours d'ouverture, la lecture d'une lettre adressée par William Edgar Dubois, empêché par le gouvernement des États-Unis de sortir du territoire. C'est en tout cas ce que nous révèle Bob Swain, auteur d'un excellent documentaire intitulé « Lumière noire » que je vous invite à visionner. L'importance du Congrès sur les décolonisations. En pleine guerre froide et sur un temps de décolonisation et de ségrégation aux États-Unis, Aline Diop réussit à rassembler à Paris un riche panel d'artistes et intellectuels noirs, tout horizon confondu et toute obédience politique ou religieuse. Comme dit dans les précédents épisodes, l'unité des peuples noirs d'Afrique et de la diaspora est au cœur du mouvement panafricaniste. Oui, car c'est de cela qu'il s'agit. Comprendre le panafricanisme à travers ces événements et personnages clés qui ont mouillé le maillot pour changer à jamais le destin du continent est plus que nécessaire pour comprendre et cerner notre histoire. C'est en cela que Paris, une ville importante pour le panafricanisme, en tout cas Paris est une ville importante pour le panafricanisme, car les activités de militants, d'écrivains, d'étudiants, d'artistes, de journalistes, d'avocats, d'ouvriers, et j'en passe, venus des colonies d'Amérique, s'y sont multipliés pour faire de la capitale de l'empire colonial français l'un des hauts lieux de culture. L'un des hauts lieux de culture et d'histoire du panafricanisme du XXe siècle. C'est dire si l'histoire a un drôle de sens de l'humour. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez approfondir l'expérience, n'hésitez pas à visiter la page de l'historiographe Nissim Lasconi, N-Y-S-Y-M-B Lasconi, comme vous l'entendez, ou le Paris Afro, afin de découvrir l'influence nègre de Paris. Le lieu tout dédié reste encore le quartier latin. Et croyez-moi quand je vous dis que vous serez surpris. Et oui, le panafricanisme est un mouvement d'émancipation, donc de production intellectuelle, littéraire et artistique, donc un mouvement d'action au service du bien commun, car sauver l'Afrique de l'impérialisme revient à extirper le démon du racisme et de la négrophobie chez la majorité des dirigeants du monde occidental. Parmi les idées phares du Congrès, un mot revient, le panafricanisme. Panafricanisme comme vecteur d'unité culturelle et linguistique de l'Afrique, dont l'un des défenseurs était le savant Cheikh Anta Diop du Sénégal. Et je n'ignore pas le rôle majeur de Césaire, de Senghor, de Damas, d'Aline Diop dans la réécriture d'une histoire nouvelle de l'Afrique, donc d'une décolonisation non seulement mentale avec le génie poétique des trois premiers, mais aussi politique avec l'engagement marqué de Césaire qui a produit une œuvre monumentale, discours sur le colonialisme, ou même d'un guide tyrolien qui a été à la manœuvre de l'érection de la maison présence africaine. Et oui, grâce à l'impact des artistes et intellectuels noirs, il n'était plus possible de considérer l'homme noir comme un sous-homme. Et vu que nous allions irrémédiablement vers les indépendances que nous avions forcées, alors il fallait préparer l'après pour doter le continent d'une théorie politique, artistique, culturelle, économique, ce à quoi se sont attelés nos prédécesseurs lors de ce sommet. Ce congrès a donc servi de terreau à l'émergence d'une vision commune, car seul comptait que l'Afrique fût de nouveau debout. Malheureusement, beaucoup d'incertitudes subsistèrent tant certains étaient encore remplis de la densité des Blancs. Au moment même où certains prônaient la rupture et l'unité dans la vision, d'autres voulaient être souverains individuellement, en étant néanmoins sous tutelle de la France ou d'autres puissances occidentales. Des protagonistes sérieux comme Oufouette Boigny vont batailler pour une unité progressive de l'Afrique, oubliant certainement que ce sont ces mêmes thèses qui naguère ont prévalu pour denier aux esclaves puis aux colonisés le droit à une liberté sans condition. Eh oui, le drame du colonisé ou de l'ex-colonisé, c'est qu'il reprend à son compte, comme par pulsation, les réflexes de subordination de son ancien maître depuis qu'il a acquis sa liberté. Nous étions colonisés dans nos esprits et dans nos cœurs, dans nos cultures et dans nos arts. Ce congrès des intellectuels et artistes noirs était donc la riposte efficace face au colonialisme, car comme le disait le poète René de Pestre, la colonisation est l'inverse de l'idée même de culture. Et si c'est le cas, alors elle est naturellement vouée à disparaître. Je décerne donc un carton rouge aux colonialistes, ainsi qu'à toutes les obédiences qui partagent ces courants, et déclare Paris ville du panafricanisme. Tout ceci n'a été possible que grâce à l'amour que ces gens portaient à leur peuple, mais aussi et surtout à la croyance profonde qu'ils avaient en l'humanisme vrai. Nous sommes une grande famille, nous sommes un, et où que nous soyons, il nous faut sortir de l'ombre pour entrer sur la grande scène de l'histoire. C'était Arleno Antonio, juriste, blogueur, acteur associatif et panafricaniste convaincu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, car nous sommes le monde.